écoutez Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui commence sur un problème technique.
Ce moment de silence vous était offert par les élèves du lycée autogéré de Paris.
Faut pas dénoncer Jean-Mathias, c'est mal, ça rappelle de mauvais souvenirs. Donc, on avait prévu vous passer un petit morceau, La Bombe et moi. Mais on le passera pas. Et pendant ce temps-là, José est en train de s'activer sur la table de mixage. Et donc c'est Jeudi Noir avec Jean-Mathias, et cette fois-ci pour de vrai, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un fantôme invoqué pour les besoins de la mise en scène. Et José, donc à la régie, et Michel qui vous parle. Voilà, et donc ce soir, on va vous parler, alors on a hésité, Grébert, Schmitt, et finalement, c'est tombé sur Jean-Mathias, et donc ce sera Schmitt. Et qui va nous parler d'un bouquin de Jean-Claude Monod, qui s'intitule « Penser l'ennemi, affronter l'exception, réflexion critique sur l'actualité de Carl Schmitt ». Donc, Carl Schmitt, on en avait parlé déjà cette année, c'est un juriste allemand qui a soutenu à peu près tous les régimes possibles et imaginables. La République de Weimar, il a essayé de s'y introduire, mais quand les nazis sont arrivés au pouvoir, là, il a vu sa grande chance, et il a participé à l'élaboration des lois, souhaitées par les nazis. Il s'en est moins bien sorti que Heidegger après, puisque lui, il a carrément été vraiment viré de l'université, il a pas pu se faire passer pour un nazi philosophique. Il était trop mouillé. Et de façon assez étonnante, et c'est pour ça qu'on s'y intéresse, étonnante non, si on connaît un petit peu l'intelligentsia française, c'est pas si étonnant que ça, puisque comme je l'ai déjà dit, pour les philosophes de gauche français, il vaut mieux avoir été un poète philosophe nazi qu'un logicien communiste, mais autrichien. Mais bon, Carl Schmitt fait partie des références qu'on peut retrouver assez fréquemment sous la plume de gens de gauche. Donc ça va être une émission dans la série un petit peu les amis qui vous veulent du mal et non pas les ennemis qui vous veulent du bien. Après je sais pas du tout ce qu'il y a dans le bouquin parce que moi je l'ai pas lu. Alors Jean-Mathias, est-ce que tu peux éclairer notre lanterne à tous?
Je vais essayer. Alors le livre de Monod donc s'appelle Penser l'ennemi, affronter l'exception. Sur le personnage Carl Schmitt lui-même, on peut aller plus loin que ce que tu as dit, hein, c'est le juriste du régime nazi. Donc
il a été impuni sur la touche à partir de 36,
C'est lui qui a structuré tout le cadre juridique propre à l'arrivée des nazis au pouvoir. Il a justifié de bout en bout, il a professé un antisémitisme explicite, virulent il n'est jamais revenu là-dessus, contrairement à Heidegger que tu évoquais là, qui a été plus prudent, et puis dont on découvre aujourd'hui là qu'il y a des textes qui sont beaucoup plus explicites chez lui, mais
dans les cahiers noirs qui ont été publiés en Allemagne.
Et Schmitt est un juriste nazi, antisémite, et comme tu l'as signalé, c'est pour ça que c'est important, je pense, de bien avoir une idée précise de ses propos. C'est que c'est quelqu'un qui a été, mais alors presque tout de suite après la guerre, hein, et même au moment de sa collaboration avec le régime nazi, qui a connu des lectures et des interprétations qui n'étaient pas nazies. Notamment du côté de chez certains marxistes, qui ont repris ces textes assez rapidement, et ensuite il a été repris de manière assez systématique, en fait, il faut le dire, beaucoup par des marxistes ou des penseurs d'extrême gauche au sens large, à partir des années 60, sur un texte qu'on avait déjà discuté dans cette émission, La théorie du partisan, qui est un texte des années 60, du début des années 60, dans lequel en fait il essaie de faire une théorie de la guerre irrégulière et de la figure du partisan, donc à partir de l'expérience chinoise, donc maoïste, et algérienne, avec l'OAS, donc il essaie de faire une théorie un petit peu hybride à partir de tout ça. Et en fait, les maoïstes dans les années 60 ont déjà largement contribué à réhabiliter, entre guillemets, Schmitt. Et aujourd'hui, c'est un auteur qui est régulièrement cité, alors par des auteurs qualifié d'extrême gauche ou d'ultra gauche. Je pense par exemple à quelqu'un comme Agamben qui s'appuie beaucoup sur Schmitt dans sa critique de l'État, dans sa critique du droit. Il est pas très très loin non plus. Rarement cité à ma connaissance par Badiou, mais au fond le propos de Badiou est convergent avec celui de Schmitt. Hein, c'est une référence un peu occulte de Badiou. C'est aussi, Schmitt a une référence constante, alors bon, on sait qu'il n'est pas en très grande, en position très favorable aujourd'hui, mais c'est aussi une référence constante des gens de Tarnac et de Julien Coupa notamment. Et du comité invisible,
ex-Ticoun,
etc. C'est une référence d'Anthony Negri aussi très souvent. Donc tout ça fait que il a une position un petit peu étrange, puisque par sa biographie, il n'y a aucune ambiguïté. Hein, c'est un nazi convaincu. Et en même temps, il semblerait que beaucoup de gens à l'extrême gauche, et y compris chez des gens qui se réclament d'une certaine position libertaire, il attire, il séduit, et que beaucoup de gens pensent y trouver des outils en fait pour penser un certain nombre de questions aujourd'hui. Alors, lesquelles ? C'est le principal avantage du bouquin de Mono de préciser ça, c'est-à-dire que Mono essaye de partir d'un principe de lecture qui est ok, on a affaire à un nazi, aucune ambiguïté là-dessus, il ne s'agit pas de défendre Carl Schmitt pour son engagement politique, il ne s'agit pas non plus de défendre forcément ses positions philosophiques ou théoriques, il s'agit de voir par contre si effectivement il y a des outils qui peuvent être extraits en quelque sorte de son parcours personnel, de son engagement politique, et qui peuvent servir à penser un certain nombre de problèmes aujourd'hui. Il en voit au moins il identifie deux problèmes sur lesquels Carl Schmitt pourrait être lu comme un auteur intéressant. C'est pas son avis, je pense qu'il a raison. Il pense notamment à la critique du droit. La critique du droit, alors à la fois de l'état de droit, mais surtout du droit international, qui est développé par Carl Schmitt, alors au début des années 30 années 20-30, contre la mise en place d'un droit international autour de la Société des Nations, sous influence américaine, pour le dire vite. Donc je vais revenir là-dessus, mais ça c'est une grande ligne de critique de Carl Schmitt. Et il y a aussi finalement chez Carl Schmitt une critique de l'état de droit, en général, qu'il a finalement affûté au moment de la République de Weimar en Allemagne. Alors tu as dit effectivement qu'il avait essayé de s'introduire dans la République de Weimar, c'est un peu plus compliqué. C'est pas du tout un soutien de la République de Weimar, mais c'est quelqu'un qui est resté qui s'est présenté en quelque sorte comme un recours pour donner des outils juridiques et renforcer entre guillemets l'autorité de l'État allemand pendant la République de Weimar. Donc c'est-à-dire qu'il est proche des ultra-conservateurs allemands qui à l'époque n'ont pas encore les moyens de renverser la République. Le parti nazi est encore embryonnaire, où il n'est pas en mesure de prendre le pouvoir. Et par contre, il y a des mouvements ultra-conservateurs en Allemagne. Carl Schmitt en fait partie. Des mouvements traditionnalistes catholiques, notamment. Carl Schmitt est un catholique traditionnaliste. Et c'est à ce titre qu'il va, du coup, proposer ses services, hein, mais un peu comme la corde qui soutient le pendu, plutôt. Hein, c'est-à-dire que il propose des outils juridiques qui visent à convertir la République de Weimar en un régime autoritaire, au fond. Alors ça, c'est le premier axe, en fait, qui intéresse les auteurs d'extrême gauche, on va dire, à la lecture de Schmitt. Cette critique du droit international, pourquoi ? Ben parce que aujourd'hui, effectivement, l'évolution du droit international, avec la question du terrorisme international et de la collaboration entre les États, cette question du droit international et des limites du droit international ressurgit. Et dans le cadre d'une critique de la mondialisation, d'une critique de l'empire, si je reprends les termes de Negri, ou d'une critique du devoir d'ingérence ou de la guerre d'ingérence au sens large, aujourd'hui, certains auteurs vont donc chercher chez Schmitt des outils qui, croit-il, leur permettraient de montrer les limites ou l'hypocrisie en quelque sorte du droit international aujourd'hui. Alors ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, qui est en fond lié, c'est la manière dont Carl Schmitt pense la politique comme finalement une stratégie qui définit systématiquement un ennemi, un ennemi à abattre. Et là aussi, chez les auteurs que j'ai évoqués, donc qui sont des auteurs plus ou moins proches des anards et des libertaires, certains effectivement s'en réclament, je pense à Agamben notamment, même si c'est sous une forme très théorique, très intello, etc. Mais il n'empêche qu'on n'est pas très loin, si vous voulez, des mouvements anards. certains, tous ces auteurs-là vont chercher chez Carl Schmitt finalement des outils pour penser la figure du terroriste aujourd'hui. Le terroriste comme une espèce finalement d'angle mort du droit et du sujet de droit, si je dis les choses de manière un peu jargonnante. C'est-à-dire qu'en fait, le terroriste aujourd'hui, c'est celui qui est hors du droit. Hein, c'est le hors-la-loi, en quelque sorte.
Et qui sera traité aussi, et qui sera traité de façon non régulière.
Et qui est traité de façon non régulière.
Extra-légale.
Exactement.
Confère Ben Laden ou Guantanamo. Oui.
Hein, ou les lois, effectivement, les lois d'exception. Les lois d'exception antiterroristes. Ben, on a une dernière mouture qui vient d'être sortie en France il y a la semaine dernière, donc on est en plein dans le sujet. Et au fond, ce qui intéresse ces auteurs-là, c'est de lire Carl Schmitt comme celui qui a réfléchi finalement, pareil, à l'hypocrisie du discours juridique, qui affirme effectivement une espèce d'égalité formelle et des droits formels pour n'importe qui, mais qui en réalité ne peut pas faire autrement que de désigner un ennemi ou des catégories de population qui vont se retrouver en dehors de la protection du droit et donc de la protection de l'État.
Alors c'est une interprétation marxiste, ça, directement, comme tu parles de droit formel.
Alors,
droit formel, pour les auditeurs, c'est la dénonciation la critique que fait Marx des droits de l'homme, en disant ce sont des droits formels, ils sont garantis sur le papier, mais en réalité, ils n'ont aucune application concrète.
Voilà,
garantir le droit de propriété, par exemple, le droit universel de la propriété, c'est tout simplement gravé dans le marbre le fait que ceux qui possèdent déjà continueront de posséder et que ceux qui ne possèdent rien auront beaucoup de mal à commencer à posséder.
Ouais. Alors c'est évidemment ce que disent les marxistes. C'est pas ce que dit Schmitt, parce que Schmitt, évidemment, ne parle pas de la propriété privée.
Bien sûr.
Et pour cause. Par contre, il attaque, si vous voulez, systématiquement l'idée que que l'État aurait une légitimité qui reposerait sur le droit. Hein, c'est-à-dire que pour Schmitt, l'État doit assumer le fait que sa légitimité repose toujours en dernier recours sur de la force, hein, et sur une force qui est arbitraire, qui n'est légitimée par rien, qui n'est justifiée par rien. Hein,
on voit comment ça peut être pris de façon critique,
bien sûr,
assez facilement. C'est-à-dire qu'en aucun cas l'État n'est légitime.
Exactement.
Il est toujours fondé sur la force.
Il est toujours fondé sur
la force. Sauf que chez Schmitt, j'imagine que c'est plutôt du genre regardez la réalité en face.
Exactement.
Fondez votre État sur la force parce que c'est que ça qui fonctionne.
Exactement. Assumer le fait que l'État n'existe qu'en désignant de l'ennemi. Assumer cela, effectivement, l'État est une machine de guerre, c'est quelque chose qui doit être assumé, et tous les discours qui relèvent soit du droit international, soit des droits de l'homme ou des droits individuels, sont en fait des discours hypocrites qui servent à masquer finalement, soit la domination d'un État impérial qui dissimule finalement son impérialisme, dans le cadre du droit international, soit la domination d'un État aux mains finalement d'une caste ou d'un ennemi intérieur, bien évidemment, sachant que dans le cadre des années 30, l'ennemi intérieur, vous aurez vite compris de qui il s'agit.
Alors ça, c'est dans ce que tu dis, pour les auditeurs qui ont subi l'émission que j'ai faite tout seul sur les Lumières radicales, ben, vous pouvez voir que c'est totalement opposé à la philosophie des Lumières. Là, il y a, je pense que, à une philosophie rationaliste de la politique.
Absolument. Et en même temps, Schmitt se réclame finalement d'un retour. Et là-dessus, Monod montre que c'est très contestable. Finalement, aux théories classiques de l'État, il y a une sorte d'équilibre entre des États souverains. Qui sont ceux effectivement du traité de Vienne.
Traité de Vienne, ça.
Du traité de Vienne, bien évidemment.
1815.
Donc 1815, après les guerres napoléoniennes, les monarchies d'ancien régime se partagent l'Europe, se mettent d'accord sur un équilibre des forces entre États souverains. À l'intérieur de leur zone d'influence, les États sont souverains, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Et on a un droit international qui repose uniquement sur un équilibre de forces. Hein. Alors, c'est ce qui explique, si vous voulez, que du coup Schmitt soit aujourd'hui, alors il est utilisé directement, et ça de manière tout à fait compréhensible, par des nationalistes, par des républicains souverainistes, hein, qui y voient effectivement une manière de définir, de légitimer la souveraineté de l'État, qui il n'y a pas de légitimité au-dessus de l'État. Évidemment, du coup, ça met en question la notion d'une déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, par exemple. L'idée qu'il y aurait un droit international ou qu'il y aurait des droits fondamentaux de l'individu est une chimère, évidemment, et c'est une escroquerie, au fond, qui sert finalement à dissimuler la force des États. Donc les nationalistes et les républicains souverainistes, effectivement, vont puiser chez Carl Schmitt des outils, et d'une certaine manière, si on met de côté, ce qui est quand même un gros morceau, parce qu'il faut voir si effectivement le système tient sans ça, si on met de côté l'antisémitisme, la haine, donc le juif est évidemment l'ennemi intérieur pour Schmitt. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de pays, il n'a pas de patrie, il n'a pas de territoire.
Hein, il n'a pas de terre.
C'est sans patrie, il est déterritorialisé. Mmh. Les Tziganes aussi, bien évidemment. Donc ça, ce sont des populations qui, de toute façon, doivent être réduites par l'État, puisqu'elles ne reconnaissent finalement pas la seule légitimité qui est la souveraineté de l'État reposant elle-même sur la force. Donc de ce côté-là, c'est pas surprenant, si vous voulez, qu'effectivement des souverainistes ou des républicanistes aillent chercher de ce côté-là. Au passage, juste une petite anecdote personnelle, quelqu'un comme Jacques Sapir, par exemple, qui est aujourd'hui un économiste qui a été proche du Front de Gauche, qui est loin d'être un imbécile, hein, que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans d'autres circonstances. Sapir, qui est identifié plutôt à l'extrême-gauche, qui a travaillé pour Chevènement aussi, qui est spécialiste de la Russie, etc., est quelqu'un qui, aujourd'hui, est violemment anti-européen, sur des bases qui, il le dit, hein, sont finalement celles de Carl Schmitt, c'est-à-dire que les États doivent retrouver leur pouvoir de décision, leur pouvoir souverain, et l'Europe est conçue comme justement une espèce de gang, en quelque sorte, supranationale, qui vient limiter la souveraineté démocratique des États. Alors c'est là où ça devient compliqué, parce que...
La souveraineté de l'État ou la souveraineté démocratique de l'État ?
Alors c'est là où c'est compliqué.
C'est deux choses très très différentes.
C'est là où c'est compliqué, et Monod a une bonne formule, je trouve, pour résumer la position de Schmitt. Il lui dit qu'au fond, la position de Schmitt, ça consiste à défendre une conception de la démocratie qui est à la fois xénophobe et anti-universaliste. Et c'est assez bien résumé, c'est-à-dire qu'effectivement, l'idée de Schmitt, c'est d'essayer de naviguer sur cette espèce de fil-là, en se réclamant d'une l'État est une émanation du peuple. Hein. Simplement, ce peuple, il est défini effectivement de manière raciste et xénophobe. Hein. Le peuple, il est lié à une terre, hein, donc on n'est pas loin, la terre et les morts, hein, donc on est dans le nationalisme ultra classique.
Et donc, le sang et la terre.
Le sang et la terre, l'État est l'émanation de ça, évidemment. Et donc il est le peuple xénophobe, hein, il refuse ce qui n'est pas lui, ce qui n'est pas lié à sa terre, donc les juifs, les tziganes, et anti-universaliste, c'est-à-dire que l'idée d'un droit international, et évidemment de droits de l'homme, de droits fondamentaux, universels, qui seraient propres à chaque individu en tant qu'être humain, est une escroquerie, hein, qui vient simplement limiter le pouvoir des États. Et alors c'est là où ça devient compliqué, évidemment. Parce qu'il y a bien une dimension démocratique, même si elle est complètement biaisée, évidemment, chez Schmitt. Mais chez nos voisins marxistes, du coup, ça devient intéressant. Parce que si on arrive à mettre de côté l'antisémitisme, la haine de l'étranger et du tzigane, eh bien, on a du coup une espèce de machine et de caisse à outils pour attaquer la notion d'État de droit et montrer par exemple l'État, le pouvoir de l'État et l'autorité de l'État reposent toujours en dernière instance sur de la force. Et ce qui intéresse Schmitt, et là-dessus il est pointu en droit et il est pointu en histoire, c'est notamment les lois d'exception. Ce qu'on appelle les états d'exception. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un état d'exception ? C'est un moment où l'État décide de suspendre, en quelque sorte, les droits habituels. Par exemple, en faisant passer une loi sur le renseignement, comme celle qui a été votée en France
avec l'article
49.3. Ça, c'est encore autre chose. Oui. L'article 49.3 est une procédure de législative. Oui. Là, l'état d'exception, c'est lorsque l'État décide de suspendre les droits individuels.
C'est un autre article,
pour une raison majeure, pour les circonstances l'exigeant. Et au fond, d'après Schmitt, c'est à ce moment-là que se révèle, si vous voulez, l'essence de l'État. Hein. Qu'est l'État en réalité ? L'État, c'est un pouvoir qui, en définitive, a le droit de suspendre les droits. Hein. L'État n'est pas l'émanation des droits, c'est pas le garant des droits. L'État, c'est celui qui a le pouvoir, à un moment donné, de dire « les droits, je m'assois dessus hein, ». Voilà, pour une période soit limitée, soit illimitée. Et donc, le moment de la décision d'exception, c'est le moment où l'État se révèle, en quelque sorte, devient visible à tous. Et alors, historiquement, il y a une genèse à cela, bien évidemment, c'est la terreur au moment de la Révolution française. Et ça, ça intéresse beaucoup quelqu'un comme Agamben, par exemple, qui va creuser de ce côté-là. La terreur et notamment le droit à l'insurrection qui est inscrit dans la Constitution révolutionnaire.
De 1793.
De 1793, et qui affirme que, sur lequel s'appuie effectivement le mouvement de la terreur, et qui affirme que bah, si effectivement l'État n'est plus l'émanation de la volonté générale, le peuple a le droit et même le devoir le plus sacré de s'opposer à lui par tous les moyens, y compris par les armes. Ce qui est une espèce de, comment dire, alors c'est assez fascinant parce que c'est un droit qui est inscrit dans la Constitution, et en même temps on a une Constitution qui en quelque sorte inscrit noir sur blanc son propre suicide, ou les conditions de son suicide si vous voulez, c'est-à-dire que une Constitution est censée établir un certain nombre de règles qui en principe sont valables pour toujours, en toutes circonstances, et pour garantir sa pérennité. Et là, on a effectivement un principe démocratique extrêmement radical qui dit ben non, en définitive, c'est le peuple qui décide. Hein, c'est le peuple qui décide. Et Schmitt, déjà, me semble-t-il, tord un peu les choses en disant finalement, en définitive, c'est toujours l'État qui décide. Voilà. C'est l'État qui décide. Et donc, on a ce premier moment-là, effectivement, de la terreur et du droit à l'insurrection, qui est historiquement, si vous voulez, une espèce de moment très important dans l'histoire de l'État moderne, puisque c'est à ce moment-là qu'on comprend, d'après Schmitt, que l'État, c'est celui qui, finalement, a le pouvoir de suspendre les droits. Non pas de les garantir, mais de les suspendre. Et alors, évidemment, le deuxième acte de l'affaire qui contribue à semer la confusion avec les auteurs que j'évoquais tout à l'heure, c'est la notion de dictature du prolétariat. Évidemment, puisque la notion de dictature du prolétariat, alors qu'on trouve chez Marx et chez Lénine, donc dans le marxisme révolutionnaire, ben reprend, hein, c'est pas un hasard, ce droit à l'insurrection qui apparaît au moment de la terreur. Simplement, elle relie ce droit à l'insurrection à une théorie du prolétariat révolutionnaire. Enfin voilà, la lutte des classes. On va pas expliquer ça ici aux auditeurs. Tout le monde a ça en tête. Et l'idée de dictature du prolétariat, elle reprend, alors c'est pareil, une vieille notion qui remonte à la République romaine. Hein, la notion de dictature, c'est-à-dire qu'effectivement la République romaine avait défini dans son arsenal juridique le cas de la dictature dans des circonstances exceptionnelles. Si la République est menacée, eh bien, on peut nommer un dictateur qui, en quelque sorte, a les pleins pouvoirs. Alors, pour une période limitée.
6 mois.
Hein, ce qui est pas rien, 6 mois renouvelables. Mais pendant une période, la République donne à un dictateur les pleins pouvoirs pour sauver la République, en quelque sorte. Et ce dictateur a le droit, bien évidemment, dans le cadre de son mandat, mais c'est un mandat que lui donne la République, de suspendre les droits et en fait d'être en dehors du droit sur une période donnée. Et donc l'idée de dictature du prolétariat, elle emprunte cette notion de dictature qui remonte au droit romain. Elle le croise avec le droit à l'insurrection qui est mis en avant au moment de la terreur révolutionnaire en 93, et elle relie ça à la lutte des classes et à l'idée de révolution prolétarienne en disant que voilà, que lorsque le prolétariat fait la révolution, il s'empare de l'appareil d'État, mais que le temps que l'appareil d'État périsse par lui-même, eh bien le prolétariat doit exercer directement le pouvoir de manière dictatoriale, c'est-à-dire sans s'embarrasser des droits des uns et des autres et sans chercher à le faire, hein, sans chercher à le faire. Et là, vous avez en quelque sorte toutes les pièces du puzzle, hein, qui expliquent pourquoi des auteurs comme Agamben, comme Negri, comme Badiou d'une certaine manière, vont chercher chez un juriste nazi, hein, chez même le juriste du nazisme, des outils pour justifier. Alors justifier quoi? Justifier finalement une espèce de légitimité révolutionnaire en quelque sorte. Et l'idée que la révolution, effectivement, elle peut être légitime, c'est-à-dire qu'elle peut être justifiée, parce que l'État lui-même, en quelque sorte, ne repose que sur de la force. Hein. Et que donc, il y a un moment donné où lorsque l'État est conçu comme un appareil de classe, hein, au service de la bourgeoisie, des possédants, eh bien, il est légitime que le peuple, et le prolétariat en l'occurrence, lui oppose une force supérieure, sans s'embarrasser du droit. Alors, vous me direz, c'est évident, on ne fait pas la révolution avec des lois, mais ça a évidemment des conséquences très très importantes sur la manière de procéder et sur la manière dont on fait et dont on dit, hein, cette révolution, puisque il n'est plus question de justice, il n'est plus question de droit individuel, il n'est plus question de limite juridique ou de cadre juridique, il n'est même plus question finalement de justifier en quelque sorte, hein, cette révolution au moment où elle opère,
hein, puisqu'elle se justifie par elle-même et par la force qu'elle exerce.
Elle se justifie par la force qu'elle exerce. Hein. Et donc on a là effectivement tout le puzzle, si vous voulez, qui explique pourquoi certains auteurs vont chercher chez le juriste du nazisme une justification de la révolution prolétarienne, communiste ou libertoïde. Voilà.
On va faire une petite pause musicale, si la technique nous le permet. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa deuxième partie. Vous venez d'entendre un morceau de Parabellum, qui est un vieux morceau qui était sorti sur une compilation qui s'appelait France Profonde dans les années 80, et c'est un morceau qui s'intitule Stalag 27. Voilà, donc encore hommage à Schultz, hein, qui est mort en 2014, et chanteur de Parabellum. Et donc avec Jean-Mathias, enfin Jean-Mathias nous parlait donc d'un livre de Jean-Claude Monod consacré à Carl Schmitt, un juriste très important pour le nazisme et pas seulement. Un titre, donc c'est un bouquin qui s'intitule « Penser l'ennemi, affronter l'exception » qui était édité chez La Découverte. Voilà, et donc Jean-Mathias nous exposait un petit peu les pièces du puzzle qui permettaient de comprendre comment un juriste totalement nazi et... Même s'il y a eu des discussions là-dessus, mais qui, bon, c'est assez indiscutable quand même, a pu être pris par des pans de l'ultra-gauche, des penseurs de l'ultra-gauche ou des communistes. Voilà, donc, alors maintenant, de quel truc est-ce que tu veux aborder, quel angle ?
Bah, peut-être commencer à essayer de montrer comment les deux thèmes là, que j'évoquais au début trouvent une espèce d'actualité finalement aujourd'hui, et pourquoi ? Alors là, ce que j'ai été un petit peu historique, on va dire, là, dans la première partie, pour montrer comment les auteurs là, que j'évoquais, donc aussi bien Negri que Agamben, ou des gens comme Badiou d'une certaine manière, même si c'est pas forcément explicite.
Foucault un peu aussi.
Foucault, oui, Foucault aussi. Comment tous ces auteurs-là qui sont classés à l'extrême gauche, à l'ultra gauche, voire j'ai comme des penseurs anarchistes. Pourquoi on va chercher ces juristes nazis des outils pour penser ça ? Alors il y a le cadre historique que je donnais tout à l'heure, et voilà, sur la critique de l'État, de l'État de droit en général. J'ai parlé aussi, deuxième axe, la critique du droit international. Et puis La définition du hors-la-loi aujourd'hui avec la figure du terroriste. Alors, sur la question du droit international, alors il faut bien comprendre comment, dans quel contexte Schmitt travaille. Lui, il travaille dans les années 20-30, donc c'était juste après le traité de Versailles, dans une Allemagne qui est évidemment en partie occupée par la France, se met en place un ordre international autour de la Société des Nations à l'époque, hein, qui se crée sur les ruines de la Première Guerre mondiale, sous domination américaine, et qui en même temps part de principes très généreux et très universalistes, justement, c'est-à-dire qu'il s'agit de construire un ordre international de paix entre les nations, etc., et en même temps on a une ESDS européenne qui n'a pas de pouvoir réel, qui n'a pas de pouvoir de contrainte. Et bon, on connaît l'histoire, hein, du coup, toutes les dictatures fascisantes ou nazies ou du côté du Japon vont s'asseoir dessus, les mener en bateau. Tous les délégués internationaux et Schmitt est quelqu'un qui vomit sur justement la Société des Nations et qui voit une espèce de vraiment de construction complètement hypocrite où on promet la paix mondiale alors qu'en fait on est en train d'assurer simplement la domination de l'impérialisme américain et occidental au sens anglo-français si vous voulez hein, contre l'Allemagne et donc il s'attaque très très violemment à l'idée d'un droit international et encore plus évidemment à l'idée d'un droit universel comme celui qu'on trouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme hein, et du citoyen. Alors ça c'est le cadre historique si vous voulez que lui s'emploie à démonter en montrant finalement que historiquement l'idée de droit international elle s'est toujours fondée sur l'exclusion et sur des zones qui précisément étaient hors la loi. Alors ici tout un voilà et c'est aussi un fait historique et contemporain de toutes les expansions coloniales si vous voulez. Alors hein, vous avez par exemple le colonialisme portugais se donne effectivement des règles de droit très claires, très explicites et puis il y a sur l'ensemble de son empire colonial et puis au-delà il y a la frontière de l'empire, c'est ce que les Portugais appellent la raya, et au-delà de la raya c'est le Far West, quoi. Donc, on peut y aller. Là, effectivement, le droit ne s'applique plus. Les Anglais et les Français font la même chose. Il y a The Line anglaise, là, effectivement, qui pointe les limites de l'Empire britannique, au-delà duquel le droit britannique et le droit tout court, finalement, ne s'appliquent pas. Il y a toujours, dans le historiquement, dans la construction d'un droit international, finalement, l'idée que y a des zones de non-droit. Le droit suppose des zones de non-droit. Et c'est parfaitement hypocrite, d'après Carl Schmitt, de le dissimuler ou de ne pas le dire. C'est exactement ce que font finalement, ce que fait la SDN, d'après lui, hein, c'est-à-dire de créer ces zones-là. Et évidemment, alors ça c'est le point intéressant d'après Monod, c'est évidemment une critique qui rentre en résonance très forte avec aujourd'hui. L'ordre international et la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, bien sûr. Puisque, à partir du moment où on parle de droit d'ingérence, ou à partir du moment où on peut aller envoyer des troupes internationales pour abattre un dictateur, pour intervenir contre le terrorisme, bien évidemment, ou contre des armes de destruction massive, etc., etc., eh bien, ça veut dire tout simplement que les puissances dominantes dans l'ordre international, États-Unis, Europe occidentale, pays développés au sens très large, se ménagent finalement des zones d'intervention qui reviennent d'une certaine manière d'après Schmitt simplement à extérioriser la guerre en dehors de leur territoire et des territoires qui leur sont associés. L'idée de Schmitt, c'est ça, au fond, c'est que l'État, par définition, c'est une machine de guerre. Voilà.
Et qu'il est clos. Il a besoin d'un dehors pour exister.
Exactement.
Et donc, dans ce cadre-là, effectivement. Mais après, il y a une grosse ambiguïté, finalement, dans ce que tu décris. C'est que, on a l'impression que. Il va décrire. Il va dire, voilà, la SDN, le droit international, tout ça, c'est des apparences. Et la réalité, c'est un droit et son dehors. Un État et ses ennemis. Et le truc, c'est qu'en fait, tu peux dire ça dans deux buts complètement différents.
Bien sûr.
C'est-à-dire que, tu vois, t'as cet ensemble descriptif, et tu peux le dire pour le condamner.
Bien sûr.
Mais tu peux le dire en disant, c'est la réalité, et il faut l'assumer. Et il faut le faire ainsi.
Bien entendu.
J'imagine que Schmitt, évidemment, il suit la deuxième voie à fond.
Et c'est
ça qui est amusant, parce que. Et c'est là qu'aussi on comprend bien comment ça peut être pris. Alors après, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas finalement. Comment dire, beaucoup tourner autour du pot pour nous refaire la fable du loup et de l'agneau en un petit peu plus développé, quoi.
Exactement, c'est exactement ça, mais t'as tout compris. C'est-à-dire qu'effectivement, Schmitt. Et alors, ce que montre Monod de manière assez intéressante et en même temps très charitable, je trouve, avec Schmitt. Hein, ça, je dis. Autant le livre est, à mon avis, il faut vraiment lire ce livre. Si on s'intéresse à Schmitt, et même si on s'intéresse aux questions de politique contemporaine, sur la question effectivement du droit, le droit d'exception, du terrorisme, des droits individuels, des atteintes aux droits, de la manière dont le terrorisme sert de machine de guerre pour détruire finalement l'état de droit et détruire les droits individuels, hein, quelle que soit la manière dont on les définisse. C'est un livre vraiment à lire. Après, c'est un livre de professeur de philosophie. Alors, il a ses mérites et puis il a ses défauts. C'est-à-dire que ses mérites, c'est qu'il est très charitable. dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il donne,
il donne sa chance à Schmitt.
Il donne sa chance à Schmitt, et, enfin, pas à l'individu Schmitt, oui, hein, mais aux outils, évidemment, et aux concepts élaborés par Schmitt, et en essayant de voir si vraiment, effectivement, qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce qu'on peut utiliser ces concepts-là, est-ce qu'ils sont pertinents, est-ce qu'ils ont une actualité, etc. Et en même temps, il a les défauts, c'est-à-dire qu'en fait, il esquive un peu la polémique. Alors, sauf à la fin, effectivement, où là, il tombe le masque, en quelque sorte, mais je pense qu'il n'est pas assez virulent, quoi. C'est-à-dire que, bon, on a envie de bondir en même temps, effectivement, sur la mauvaise foi, au fond, hein, la mauvaise foi crasse de Schmitt et son ambiguïté permanente, évidemment. C'est-à-dire que Schmitt dénonce une hypocrisie, hein, qui serait celle, effectivement, des dominants, qui se cacherait derrière le droit. Il dénonce une hypocrisie, mais la seule solution de rechange qu'il a, c'est d'en opposer une autre. C'est-à-dire, enfin, c'est d'opposer le cynisme, en fait, le cynisme de la force, quoi. Hein. Les États souverains exercent leur force, et puis, effectivement, ils exportent la guerre en dehors de leur territoire, ils exportent la guerre en interne contre des ennemis intérieurs, qui définissent, les juifs, les tziganes, etc. Et puis c'est très bien comme ça, et d'une certaine manière, les choses doivent s'équilibrer de cette manière-là, sans se raconter d'histoire sur un droit international. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un peu court, et qu'en plus ça marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, ça revient à faire finalement une apologie du droit du plus fort, très classique en réalité, hein, qu'on trouve depuis Pascal au moins.
Chez Pascal, c'est plus compliqué en plus, parce que c'est même pas une apologie du droit du plus fort.
En définitive, c'est Dieu qui choisit les vainqueurs. Ça revient quand même à ça. Hein, donc,
oui, c'est Pascal, peu importe que les voix soient justes, pourvu que le peuple les croit justes. D'un fragment quelconque.
Et en fait, ce sur quoi s'assoit Schmitt, bien évidemment, mais alors là c'est pareil, c'est une référence qui est très classique, mais qui pour moi reste parfaitement efficace. Il s'assoit sur toutes les critiques qui ont pu être faites de la notion de droit du plus fort. L'idée qu'effectivement que la force ne donne jamais aucun droit, point. Voilà, c'est tout. Et la force, c'est de la force. Et que le droit a sa propre force, d'une certaine manière. Et ça, c'est quelque chose, alors effectivement, qui est commun. C'est sans doute le trait d'union qu'il peut y avoir.
Je renvoie les auditeurs. C'est quoi, c'est chapitre 3 de la première partie du contrat social ?
Du droit du plus fort. C'est une critique ultra classique. Mais effectivement, l'idée de Rousseau dans ce texte-là, c'est que la force ne fait jamais droit. Ne fait jamais droit, c'est-à-dire qu'elle ne justifie jamais rien.
Parce que la force, c'est de la physique, c'est des causes et des effets, tout bêtement.
Si
alors
vous êtes
que
le
droit,
plus fort, vous imposez votre volonté, vous l'imposez, mais vous ne ferez jamais autre chose que de l'imposer, justement. C'est-à-dire qu'elle ne sera jamais reconnue ou acceptée à celui à qui elle s'impose.
Et la force du droit, c'est que, et la faiblesse de la force, pour faire du mauvais Pascal, c'est que le plus fort, s'il n'a pas, il n'a pas droit à son pouvoir, se fera poignarder dans le dos dès qu'il aura un moment de faiblesse.
Exactement.
Tout bêtement.
C'est que la
sans légitimité, la force ne peut pas tenir, puisque il faudrait qu'elle soit non seulement forte, mais à la limite surpuissante.
Exactement. Et le droit, la force du droit, pour le coup, c'est que en fait, elle est acceptée par ceux sur qui elle s'exerce. Et ça, en fait, c'est du béaba de cours de philo de terminale.
Complètement.
Et en même temps, on a l'impression effectivement que ni Schmitt ni tous les auteurs qui s'en réclament du côté de l'extrême gauche, l'ultra gauche que j'évoquais tout à l'heure, n'ont l'air d'avoir pris ça très au sérieux. Et c'est quand même une question, quoi. Bon, parce qu'il y a.
Là, il y a toute la puissance rhétorique.
Exactement.
Absolument énorme du fait de dénoncer une soi-disant naïveté.
Exactement. Et une injustice.
Oui, en plus.
L'ambiguïté, elle est là. C'est-à-dire que Schmitt dénonce une hypocrisie et il essaye de faire passer ça pour une injustice. Sauf qu'il n'a absolument aucun principe ou aucune règle de justice à opposer. C'est ça le fond du problème, il est là. C'est évidemment un grand classique, c'est-à-dire qu'effectivement on crache sur l'État, sur la mondialisation, sur l'hypocrisie américaine, française ou étatique ou je ne sais quoi, mais en face il faut être en mesure de dire pourquoi c'est injuste, parce que sinon effectivement on oppose simplement une force à cela, et du côté effectivement, alors là c'est une espèce de maladie infantile du marxisme, là pour le coup du marxisme adulte c'est mon point de vue depuis longtemps, c'est que le marxisme n'a jamais rien compris au droit, au fond. C'est-à-dire, il y a l'idée de justice.
Le marxisme s'en fout du droit.
Oui, mais c'est pour ça qu'il n'a rien compris, en fait. C'est du côté d'auteurs comme Agamben, qui, du coup, effectivement, insiste aussi beaucoup là-dessus, en disant, mais voilà, effectivement, Schmitt a tout compris, regardez les États modernes, c'est Guantanamo, c'est les tortures en plein vol dans les avions de la CIA, c'est l'état d'exception, c'est la surveillance généralisée, c'est les écoutes, c'est le flicage d'Internet, etc. Tout cela renvoie des réalités, et des réalités parfaitement alarmantes.
Oui,
mais la question, c'est de savoir, au nom de quoi vous critiquez ça? Au nom de quoi on critique ça? C'est évident. C'est une... Alors, bien sûr qu'il faut le critiquer. Il faut le critiquer avec la plus grande énergie. Ça, c'est tout à fait clair. Mais au nom de quoi vous le critiquez? Parce que si vous dites que c'est simplement de l'ingérence américaine dans la souveraineté française ou la souveraineté allemande, etc.
Mais et que toutes ces souverainetés se valent. Parce que
toutes ces souverainetés se valent. Bah, au fond, on n'a pas avancé d'un iota. Hein. On n'a pas avancé d'un iota. Et si c'est pour justifier, encore une fois, des États autoritaires ou des États, effectivement, potentiellement dictatoriaux et même dictatoriaux, puisque c'est ça, finalement, qui les définit, c'est sans moi. Hein, c'est sans moi. Et ça, que ce soit un Badiou maoïsant, un Agamben libertoïsant ou un Négri post-communisant.
Agamben, il est surtout théologisant depuis quelques années.
Oui, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est lu, qui est commenté, qui écrit bien, qui a une grande séduction rhétorique et qui effectivement a l'air de dire des choses très intelligentes. Vous savez, c'est la posture du mec qui démasque, quoi. Oui, oui. Attention, oui, mais l'État, oui, on est censé effectivement être protégé par l'État. L'État est censé garantir nos droits, mais en réalité, vous voyez bien qu'on va vous apprendre, vous allez voir ce que vous allez voir. Oui, bah ok, on voit, mais au fond, on sait. Hein. Et la question, c'est effectivement comment on s'y prend et sur quelle base on dénonce ça et sur quelle base on attaque ça. Et ça, évidemment, c'est un point qui n'est jamais évoqué par Schmitt, et pour cause, puisque en fait, il s'en fout.
Oui. Hein,
lui, il a évidemment... Alors, faut toujours faire des allers-retours entre l'actualité et relier ça. Alors, les guerres d'ingérence, effectivement, l'ingérence américaine ou française, les guerres en ex-Yougoslavie, en Libye, ce que vous voulez, évidemment. Alors, les exemples abondent, bien évidemment, d'interventions qui, sous couvert de droit, en réalité, ne font que masquer la domination du plus fort du moment. Bon, ok.
C'est pas nouveau. C'est pas forcément plus justifiable parce que c'est ancien.
C'est pas plus justifiable parce que c'est ancien. Alors, par contre, évidemment, c'est très important de pointer le fait que la couverture du droit ou les apparences de droit international qu'il y a dessus ne justifient rien.
Oui.
On est d'accord.
Ça non plus, c'est pas nouveau. Au sens
bien
où
sûr que c'est pas nouveau.
Justifier des crapuleries au nom de grands principes, c'est la base de la politique.
Absolument. Et donc, le problème, il est évidemment que le contexte historique dans lequel Schmitt aurait construit tout ça, c'est quand même pas rien. Il propose un cadre de droit, si vous voulez, ou une théorie de l'État qui permette à l'Allemagne nazie de retrouver son espace vital, d'avoir un grand Reich qui corresponde au folk allemand, au peuple allemand, et qui puisse faire un bras d'honneur à la communauté internationale, en particulier lorsqu'elle est américaine, anglaise ou française. Et qui puisse aussi neutraliser tout ce qui pourrait amener à condamner cet État nazi lorsqu'il va commencer à déporter ses juifs et ses tziganes. Hein, c'est quand même ça le cadre de départ. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, si on est un peu naïf, de voir que des gens comme Badiou, comme Agamben ou comme Négri ont l'air de trouver que c'est un détail, en fait. Hein. Ont l'air de trouver que ce cadre dans lequel Schmitt travaille et ce qu'il a en vue, hein, c'est ça, et pas autre chose. Alors, bon, donc ça, c'est sur l'aspect, effectivement, critique du droit international. Alors, en même temps, hein, historiquement, tout le travail historique que fait Schmitt sur, justement, la naissance du droit international, la définition de zones de non-droit, etc., tout ça est intéressant, parce que tout ça, effectivement, se retrouve d'une certaine manière, eh bien, dans la mondialisation aujourd'hui, et y compris dans les discours justifiés par le droit international, tels qu'on les entend un peu partout aujourd'hui. Pensez aux zones, la piraterie en mer Rouge, pensez au territoire libyen aujourd'hui, pensez aux normes Mali, penser à toutes ces zones. Au fond, la force des critiques de Schmitt, c'est qu'elle montre que finalement l'État, il y a toujours un centre et une périphérie, et que les droits, ils ne valent qu'au centre, et que à mesure qu'on s'éloigne du centre, d'une certaine manière, une espèce de dégradé, jusqu'à ce que les droits disparaissent, tout simplement. Alors, c'est une image qui est très forte, qui, à mon avis, qui est fausse, hein, mais qui est qui permet en quelque sorte de décrire beaucoup de situations, et c'est ça qui fait sans doute la séduction de Schmitt. Le problème étant, évidemment, que le seul usage qu'on puisse en faire en réalité, c'est celui que Schmitt lui-même en a fait, c'est-à-dire une justification de l'État nazi et de sa politique.
Ou de n'importe quel État qui a décidé d'agir pour ses propres intérêts, y compris en détruisant
l'État. Pas simplement, parce que il faut l'État de Schmitt, ouais, hein, il a forcément un ennemi extérieur, ouais, et un ennemi intérieur,
ouais.
Ce qui n'est pas n'importe quel État.
Ouais, faudrait, on en discutera après un morceau de musique que José a choisi.
Daddy, what's Rudicus Spiraticus?
What do you mean, what is Rudicus Spiraticus? You've been in this band for a goddamn year!
Yeah. and where we'll talk about an invention. We'll talk about robot testing. We'll talk about nuclear testing. But it's not enough for now. But it's time for totality. Build up a sense of reason by the sense of whole community.
Bonsoir, donc vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit et s'achève pour sa troisième partie. Avant de laisser donc à l'antenne à Entre Chien et Loup, et à Willy et à son invité, je sais pas qui c'est. Et donc à Willy là qui est en train de lorgner du côté du Microtech. Donc voilà, et on va terminer sur le bouquin que présente Jean Mathias, un bouquin de Jean-Claude Monod qui s'intitule « Penser l'ennemi, affronter l'exception », un bouquin consacré donc au juriste nazi Carl Schmitt et à ses usages possibles ou impossibles. Alors on parlait de l'État.
Il y a deux points peut-être sur lesquels là, j'aimerais qu'on termine là, sur cette dernière partie. Premier point qui est encore, effectivement, mais je vais aller vite là-dessus, parce qu'on l'avait évoqué notamment dans une émission précédente, c'est un autre fait d'actualité, on va dire, qui explique, qui permet de comprendre l'attrait de Schmitt auprès de d'auteurs ou d'intellectuels d'extrême gauche et d'ultra-gauche, comme ceux qu'on discute depuis tout à l'heure. C'est la question du terrorisme et la manière et la figure du terroriste, pour être exact. Alors, on avait parlé dans une émission précédente de la manière dont Schmitt a réfléchi sur la figure du partisan. Alors, le partisan, c'est quoi ? C'est finalement le guérillero. Hein. Le guérillero, alors il y avait toute une genèse historique hein, chez Schmitt, ça va du partisan espagnol contre Napoléon. Donc c'est un partisan qui est évidemment national hein, chez Schmitt. Hein, c'est-à-dire il est espagnol, et c'est l'âme espagnole et le peuple espagnol qui se lève contre l'envahisseur étranger, français en l'occurrence, parce que voilà. Ensuite, le deuxième, le point important d'après Schmitt, c'est la manière dont dont Lénine a en quelque sorte théorisé la figure du partisan communiste comme une espèce de combattant irrégulier, alors cette fois-ci dans une perspective internationale, ça c'est l'apport de Lénine d'après Schmitt, mais ce qui compte pour Schmitt c'est pas tellement le côté international évidemment, c'est le côté combattant irrégulier, c'est-à-dire la fin justifie les moyens, tous les moyens sont bons, hein. Il s'agit plus de batailles rangées ou de batailles d'état à état ou d'armée contre armée, hein. Tous les moyens sont bons, le terrorisme, on est dans des formes de guerre asymétrique qui font que l'essentiel, bah, c'est le but à atteindre et qu'après, effectivement. Mais plus que la version léniniste, évidemment, ce qui l'intéresse, ça a été aussi la version chinoise, donc maoïste de cela. Parce que c'est lié, là encore, à un peuple, à la nation chinoise, etc. Donc c'est quelque chose pour le qui. Alors il est évidemment anticommuniste, viscéral, mais en même temps, il respecte, il reconnaît, il admire finalement le brio avec lequel Mao a utilisé cette forme de guerre et cette forme de guerrier. Hein,
sur la fascination pour la puissance.
Ah bah la puissance et la violence militaire, mais qu'on retrouve chez Badiou, alors là pour le coup, tel quel. Hein. Et la manière dont effectivement Mao utilise ce type de tactique et de stratégie aussi pour asseoir la révolution chinoise. Et puis le dernier, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est de savoir pourquoi la révolution chinoise a réussi et pourquoi une tentative comme celle, par exemple, de l'OAS en Algérie, au moment de la décolonisation algérienne, a échoué. Parce que d'après lui, il y a des prémices de guerre de partisans. Alors, dans la guerre d'Algérie elle-même, effectivement, le FLN mène une guerre de partisans, c'est-à-dire effectivement une guerre de guérilla, où on a de harcèlement hein, d'une armée régulière qui est infiniment supérieure en nombre, en force, en impact militaire, mais qui va finalement perdre. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est le moment où l'OAS émerge, et où en quelque sorte va essayer de s'approprier les techniques du FLN pour conserver une Algérie française. Et en fait, le diagnostic qu'il pose, c'est que l'OAS n'a jamais réussi à faire ça, parce que l'OAS en fait est structuré et a un logiciel qui est celui d'une armée régulière. Et alors, et quand une armée régulière se met à singer une guérilla populaire, eh bien, elle n'arrive pas réellement, parce que justement, il n'y a pas de soutien de la population, de soutien ambigu, parce qu'en fait, c'est un soutien effectivement imposé, un soutien de la terre. horreur.
Extorqué.
En partie. Mais son analyse est celle-là, c'est-à-dire de montrer pourquoi effectivement Mao a réussi, pourquoi l'OAS échoue, hein, alors que les techniques militaires, les tactiques ont l'air d'être identiques. Hein, et en réalité, ça lui permet de faire une analyse différentielle des contextes dans lesquels s'opère cette guerre de partisans et ce qui a permis à l'un de réussir, à l'autre d'échouer. Alors, évidemment, tout ça est historiquement toujours, c'est très séduisant. Il y a plein d'idées très, très, très perspicaces, très lucides, très pénétrantes. Et ça intéresse beaucoup aujourd'hui parce que c'est aussi une manière de penser la figure du terroriste, évidemment. Alors, le terroriste, effectivement, pratique une guerre asymétrique, évidemment. Il est infiniment inférieur en force de frappe militaire. Et en même temps, il est aussi déterritorialisé. Et ça, c'est un point qui est très important. Il est beaucoup plus mobile, il n'est pas lié effectivement à des lignes d'approvisionnement, à un centre de commandement, etc. Et donc, la figure du partisan moderne, d'une certaine manière, pour les auteurs d'extrême-gauche, type effectivement Agamben, Negri, etc., c'est le terroriste, le terroriste international, notamment, en particulier le terroriste aujourd'hui, le terrorisme islamiste radical, je ne sais pas comment il faut le dire, enfin, wahhabiste, j'en sais rien. Enfin, ce terrorisme-là est assez, assez frappant. Alors, il y a plein de choses qui recoupent. On voit pourquoi on peut être tenté, effectivement, de penser à comme ça. Jusqu'à présent, on a parlé, si vous voulez, on a essayé d'adopter une espèce de critique du point de vue de l'État, hein, en quelque sorte. Et là, évidemment, en face, on est du point de vue du hors-la-loi. Quel est le hors-la-loi moderne? Quel est celui qui est défini comme hors-la-loi par les États modernes? Évidemment, c'est le terroriste. Évidemment. Et c'est cet ennemi à la fois intérieur et extérieur, puisque le théâtre des opérations, il va des quartiers, des banlieues parisiennes, jusqu'en Libye ou au Nord-Mali ou au Yémen. Donc, cette figure de l'ennemi, là, effectivement, est quelque chose qui permet de définir les États, et c'est vrai, c'est une réalité de fait, et qui permet des modifications juridiques et des suspensions du droit extrêmement inquiétantes. Et en même temps, effectivement, le terroriste islamiste aujourd'hui se coule en quelque sorte à merveille, hein, dans cette figure de l'ennemi de l'État, en quelque sorte, ou des coalitions étatiques, hein, telles qu'elles font la guerre aujourd'hui. Donc là, il y a évidemment tout ça, des choses qui sont très séduisantes, bien sûr, là-dedans, hein, et il y a une espèce de truc qui fait système, en quelque sorte. Alors, bon, en même temps, évidemment, l'analyse, elle permettrait d'être poussée un petit peu, parce que si vous voulez, il y a des choses qui marchent, ce que j'ai dit, et puis il y a des choses qui marchent moins bien. Si vous prenez, par exemple, une organisation comme l'État islamique, en fait, ça marche, mais ça marche pas si bien que ça, parce que l'État islamique, aujourd'hui, a un projet d'État, justement, de califat. Alors, un califat complètement moyenâgeux, complètement délirant, mais il n'empêche qu'ils sont territorialisés, en réalité. Et, pour ce qu'on peut en savoir, les frictions avec les populations locales, elles sont réelles, elles sont grandissantes. Et c'est probablement ce qui fait qu'on a affaire à un mouvement qui va se planter à court ou à moyen terme, parce que justement, il y a une grève qui ne prendra pas. Hein, qui ne prendra pas. Et du coup, dans la mesure où c'est quand même un foyer, effectivement, quand même de violence, d'agitation politico-militaire majeure, là, ça cadre pas si bien que ça, en réalité, avec ce que nous raconte Schmitt. Hein. Donc, même là-dessus, du point de vue descriptif, si vous voulez, c'est des outils qui trouvent leurs limites. Hein. Après, alors, le point sur lequel on pourrait essayer de discuter pour conclure aussi, c'est une critique qu'on pourrait adresser à Schmitt. Et le point fort de Schmitt, c'est de montrer, en quelque sorte, la pratique réelle des États. La pratique réelle des États, c'est-à-dire la manière dont les États, effectivement, mettent en scène, si vous voulez, leur capacité à suspendre les droits, à les donner, puis à les retirer, si effectivement la raison d'État l'impose.
En même temps, cette description, elle existait bien avant Schmitt.
Elle existait bien avant Schmitt, mais effectivement, dans le contexte, et puis il apporte toute une histoire de cela, il apporte toute une histoire des notions juridiques qui ont servi à élaborer cela, et tout, dans le cadre de l'histoire de l'État moderne. Donc tout ça est tout à fait intéressant, historiquement et juridiquement, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, la question, c'est évidemment qu'il le fait dans un cadre où l'idée d'un droit international ou d'un droit universel ou de droits fondamentaux de l'individu ou de l'être humain en tant que tel n'a aucun sens. Hein? Alors, est-ce que... ici, on est tous d'accord pour dire que c'est intenable, une position comme ça. C'est-à-dire que les droits fondamentaux de l'individu... Alors, on peut discuter sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, le contenu, est-ce que la propriété privée doit en faire partie ou pas, etc. Bon, tout ça, on peut en discuter. Mais il me semble que, y compris sur une position anarchiste conséquente, la notion de droit universel et droit de l'individu, elle est absolument incontournable. Incontournable. Et donc, elle est universelle. Alors après, la question, il y a la question de l'État dans cette affaire-là. Est-ce que l'État est forcément vraiment quelque chose qui ne peut pas rentrer dans ce cadre-là, ou est-ce qu'on peut imaginer des espèces de mutations de l'État qui en ferait en quelque sorte les
un gros centre administratif.
Ouais, un gros centre administratif chargé d'appliquer un droit universel. Alors évidemment, là on est sur de la prospection très 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 large, mais en même temps ça définit aussi des stratégies politiques et puis des lignes de défense. Si on veut critiquer aujourd'hui les lois sur le renseignement telles que celles qu'on va se prendre dans la gueule là, ou le Patriot Act,
c'est
il y a 10 ans.
C'est à partir de l'individu.
Et à partir de quoi on va le critiquer? Hein, est-ce qu'on revendique, alors il s'agit pas on revendique des droits de l'individu et on revendique d'une certaine manière des lois qui tiendraient compte de ces droits et qui les garantiraient réellement, donc d'une certaine manière, alors on peut appeler ça un état ou dire que c'est un autre nom, on peut parler de fédération, de confédération, de ce qu'on veut, mais est-ce qu'effectivement la stratégie ne consiste pas à dire attention là, l'état effectivement sort de sa légitimité, ce qui veut dire qu'éventuellement on peut imaginer une administration collective qui aurait une légitimité. Ça me paraît être une question quand même de fond, ça. Hein? Alors, évidemment, Schmitt n'y apporte absolument aucune réponse, pas plus qu'Agamben, pas plus que Negri, pas plus que Badiou. Hein? Donc, attention aux faux amis. Hein? Enfin, en l'occurrence, c'est même pas un faux ami, c'est un vrai ennemi. C'est un vrai ennemi, voilà. Ce Schmitt est un vrai ennemi. Les outils qu'il donne, voilà.
Bah, ils sont un double tranchant pour nous.
Ils sont absolument un double tranchant. Donc, mais lisez ce texte-là, pour ceux que ça intéresse, Penser l'ennemi, affronter l'exception, de Jean-Claude Monod.
Aux
éditions de la Découverte, c'est un texte qui est très riche et assez central sur pas mal de questions aujourd'hui.
Voilà, donc on va mettre un petit morceau de musique et puis ensuite on va laisser l'antenne à Entre Chien et Loup et à Willy, voilà, qui cherche à nous virer. Ciao.
Ayata, your daughter from Venturian border, a come. Ja, ja.